בצד הוא שלימות מידת הביטחון. Dans laquelle est fait l'inverse. Il nous parle pour celui qui est déjà pour celui qui est déjà convaincu. Il veut vraiment être Shalem Bemidat Abitachon, donc de faire les choses bien comme il faut, on va dire. Alors comment est-ce qu'on fait les choses bien comme il faut? Usleimut midat habitachon, celui qui veut être entier. Hi shelo yiftach ba'adam klal uklal. Il ne faut pas du tout faire confiance à un être humain. Velo yakpid al shumada. Et de même, ça ne sert à rien et ça n'a pas de sens de s'énerver sur quelqu'un qui a mis des monaches les mains, parce qu'il faut bien croire et il faut être entier là-dessus. Shiakol shluchei de rachmananim, c'est-à-dire que tout ce qui arrive sur quelqu'un, même si ce sont des autres qui lui ont entraîné ça, ils sont en vérité seulement shluchei de rachmana. Ils sont seulement les envoyés d'Hachem. Verbe shluchim lamakom. Verbe shluchim lamakom. Im letor, im lemuta. Kadosh Baruch Hu, il a des envoyés, plusieurs envoyés, pour le mal comme pour le bien. Seulement, et en principe, les galgalim zkut à l'aider Zakai, les chora à l'aider Chaya. Les zkut, ça passe par les Zakai, et les chora, ça passe par les Chaya. C'est-à-dire que, s'il y a une personne qui me fait de mal, c'est parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut me faire de mal. Et si, par contre, quelqu'un me fait de bien, ce n'est pas lui qui m'a fait les biens, c'est Kadosh Baruch Hu qui voulait me faire des biens. Seulement, la raison pour laquelle, pourquoi c'était le premier qui a été choisi pour faire le mal, et pourquoi c'est le deuxième qui a été choisi pour faire des biens, c'est parce que le premier, il a déjà fait beaucoup de mitzvot. Pardon, le premier, il a fait beaucoup d'averot. Et parce qu'il a fait beaucoup d'averot, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne cette mission de faire du mal à quelqu'un. Et la deuxième personne, il a fait beaucoup de mitzvot. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne la mission de faire du bien à quelqu'un. La Gemara, elle appelle ça Abba le Taher Mesri'im Beyado. C'est lui qui veut faire du bien. Akadosh Baruch Hu, il lui donne une ouverture. Et celui qui veut faire du mal, à Kadosh Baruch Hu, il lui aide de trouver l'occasion de faire du mal. Quand une personne il a vraiment envie de faire une mitzvah, il s'effonce dans le monde des mitzvot, à Kadosh Baruch Hu va lui donner des occasions de faire des mitzvot. Et quand la personne il est tentée, il est attiré plutôt par le sens de l'avera, à Kadosh Baruch Hu, il va lui donner les occasions de faire l'avera. J'ai raconté hier soir une histoire, je vais raconter en bref, une histoire qui est racontée par le Ben Israël, Rabbi Yosef Chaim. L'histoire est vraie. Il raconte comment est-ce qu'il y avait des juifs. C'était en voyage maritime sur un bateau. Les bateaux écroulent comme dans toutes les histoires. Donc il se trouve quand même sauvé, il flotte sur des morceaux de bois, des bateaux cassés, et il reste comme ça sur la mer 3-4 jours. Au bout des 4 jours, la mer les a accrochés, les a jetés sur une plage. Donc bon, crachés, mais ça fait maintenant 4 jours qu'ils n'ont pas mangé, donc très très faim. Alors, ils commencent à marcher, ils sont très fatigués, ils n'arrivent pas à avancer bien comme il faut, mais ils font quand même l'effort et ils arrivent à une ville à côté. catastrophe. Il demande est-ce qu'il y a ici des juifs, il n'y a plus personne, ils sont tous des goïms. Il y avait ici une communauté juive il y a plusieurs années, mais ils ne sont plus là, il n'y a plus de juifs. Mais ils ont très faim. Ils ne peuvent plus tenir les coups. Alors ils se parlent entre eux, et ils se rappellent qu'ils ont étudié à l'époque, à l'école, puis quoi, en effet, je devrais qu'on la Torah. Donc, s'il y a un danger réel des vies, on a le droit de manger même des choses interdites. Bref, alors ils se disent, on va aller frapper sur des portes des gens, on va leur dire qu'on a très faim, on va leur demander à nous nourrir. Et ça qu'ils nous donnent, ils nous donnent. En fait, je ne comprends pas très bien cette histoire, parce qu'on peut essayer de se débrouiller avec des choses comme des fruits, des légumes, des pains. Mais l'histoire est racontée par les Bénisraël, donc je ne discute pas. Alors, peut-être les deux personnes n'étaient pas des grands talmides des Chachamim. Ils ont pensé que quand on est en état de danger, alors c'est même pas la peine de chercher trop la nourriture qu'elle peut passer comme cacheur. En tout cas, les deux, ils ont frappé sur des portes, mais ils ne sont pas allés ensemble, parce que quand il y a des mendiants qui frappent à la fois et demandent à manger, ça repousse un peu les donateurs. Donc chacun, il a pris un quartier, chacun s'est mis d'un côté, et ils ont frappé, dans certaines maisons, les a jetés, mais chacun, il a trouvé, en fin de compte, une personne gentille qui l'a nourri. Et dans deux maisons, on les a servis un bon repas. Les premières personnes, avant qu'il a quitté la maison, les Baalabait, la personne chez qui il était, il s'est penché, il a soufflé comme ça sur l'oreille, ne vous inquiétez pas, vous êtes juifs, moi aussi. C'est moi, ils ont renvoyé de la ville tous les juifs, je suis marin. Mais la nourriture chez moi c'est cachère, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as mangé c'est cachère. Et pour qu'il va les croire, il a sorti même les couteaux avec lesquels il fait la shrita, il a vu que c'est vraiment un couteau de chochette. Vu que l'autre était pas comme un juif, il était même chochette. Ah, il était tellement content. C'est vraiment une DHM particulière de tomber dans une situation pareille, dans une ville dans laquelle il n'y a pas assez de juifs, et de trouver de la nourriture cachée sans faire exprès. Mais la deuxième personne, malheureusement, elle n'a pas eu la même chance. Parce que dans la maison dans laquelle il était, on lui a servi un bon repas, mais c'était des poulets au beurre. Donc c'était clair que même si les poulets a passé bien par la shrita, mais c'était pas cachère. Et les balabaites à la fin du repas, il lui a rien dans l'oreille. Donc, alors les deux, ils se rencontrés ensuite. Et ils ont pris la route vers chez eux, et il y a les premières qui le racontent au deuxième, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé, fin de repas, ben là-bas, et ils nous racontent l'histoire. Le deuxième, il est devenu tout jeune. Il était très embêté. Mais il n'a rien dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit juste, moi j'ai pas eu cette chance, j'ai des preuves écrasantes que la nourriture où j'étais moi était à Reflemadri, sans doute. Bref, ils sont rentrés chez eux. Et la deuxième personne, la question lui a bien travaillé dans la tête. Il n'a pas pu comprendre pourquoi est-ce que les premières l'a été épargnée et lui non. Il a décidé qu'il va aller demander les rabbins. Peut-être les rabbins pourront lui expliquer ça. Il est allé chez les rabbins, il lui raconte l'histoire. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi? Ah, hier soir, il y avait un rabbin, Hachou. Il s'appelle Rabbi Sifrot. Je n'ai pas entendu parler de lui. C'est une personne très très modeste, très humble. Il a un yeshiva, un collègue à Bnebrak, ça fait déjà beaucoup d'années. Et il n'a jamais sorti de là-bas pour faire de l'argent. Ça fait 45 ans qu'il n'a pas quitté Eretz Israël. Et là, il est venu parce que, comme vous savez, le gouvernement a coupé tous les gouvernementales au yeshivot. La situation de la yeshiva est catastrophique, donc il est venu. Malgré lui. Mais il ne sait pas faire, il ne sait pas faire. Vraiment, il ne sait pas faire. Moi, je lui connais déjà plus que 30 ans. J'ai avec lui certains contacts il y a 30 ans à Bnei Brak. J'étais ravi de lui revoir. Donc, il est venu au cours des moments que j'ai fait ici le soir. Et il a dit quelque chose. Je pense peut-être ça vaut le coup de vous le répéter. Il a amené un texte des Talmud qui raconte une histoire sur Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer était le rav de Rabbi Akiva. Donc déjà, à partir de l'élève, vous pouvez déduire la qualité des rav, évidemment. Alors, la Gemara raconte « Nit pas Rabbi Eliezer le minute ». Rabbi Eliezer, il était attrapé par le pouvoir romain les minutes, chez les idolâtres. Et il était amené devant les juges. Qu'est-ce qu'on lui accusait ? On lui accusait d'étudier et d'enseigner la Torah. C'était un gros péché, on est bien d'accord. On était amené devant les juges. Les juges lui-même était un écuré, était un prêtre. Alors les juges lui dit « Zaken shekmotra » Il a dit, vous êtes un messie âgé, vous avez l'air sage. Comment ça se fait que vous vous occupez des bêtises pareilles? À votre âge, vous devez comprendre que tout ça, c'est rien, c'est bidon. Rabbi Eliezer, il ne savait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il y a à répondre sur un argument pareil? C'est tellement ridicule qu'il n'y a pas de réponse. Alors il a levé ses yeux vers là-haut. Et il a dit une phrase. Ne'eman alaya dayan. Ça veut dire, les juges, pour moi, il est ne'eman. Je lui fais confiance. Je fais confiance au juge. En vérité, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Eliezer? Qu'il fait confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est le vrai juge. Mais ce pauvre goy, il aime tellement son kavod. Vous savez, les kavod, quoi. Alors, il était tellement amoureux de lui-même. Il était sûr et certain que contre Rabbi Eliezer, il dit, j'ai fait en confiance en Dieu, juge, de qui il parle? De lui. Ah, ça lui fait tellement plaisir qu'il a dit, parce que tu parles si bien que ça, je t'ai libéré immédiatement. Et il est libéré sur place. Nous, quelqu'un comme moi, si un truc pareil m'arrive, j'ai sorti de prison, j'ai rentré à la maison, j'ai fait une grande souda, j'ai appelé tout le monde pour se réjouir avec moi, Benes Ha'atzala, à cette miracle, comment est-ce que je t'ai sauvé de cette prison. Parce que la Gemara raconte dans la suite qu'il y avait un deuxième rave avec lui, Rabbi Hanina Ben Tradion, qui a été tué, lui, sa femme et ses filles. Donc devant le même juge. Ce n'était pas une petite question de payer une amende ou de rester un an ou deux ans en prison. C'était une question de vie ou mort. Donc, quand Rabbi Eliezer sort de prison, si moi j'étais Rabbi Eliezer, Alvayamen, j'aurais fait un fait immense. Peut-être je vais louer, je ne sais pas, l'Olympia pour appeler tous les gens que je connais, pour chanter tous ensemble à Hallel, faire un soudat mitzvah, drachot, du vrai Torah, non? C'est comme ça qu'un juif doit réagir. Alors, à notre étonnement, il y a marqué dans la Gemara, Nichnas Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer est rentré chez lui, Nichnesu Talmidav le Nahamo. Ses élèves, ils sont venus pour lui représenter leurs condoléances, pour lui consoler. Ça veut dire que Rabbi Eliezer est rentré à la maison comme un homme endeuillé. Pas comme quelqu'un. Plein de reconnaissance, plein de joie, comme ils l'ont dit. Tout ça raconte l'Agma. Et l'Agma a dit pire que ça, que tous les élèves essayent chacun de son côté de lui consoler, et ça passe pas, il n'entend rien, il veut rien savoir, il reste dans son dé. Atsubar Rabbi Akiva, le Nahamo. Tant qu'il n'est pas arrivé Rabbi Akiva, son élève préféré a priori, qui savait comment est-ce qu'il faut lui parler, il n'a pas trouvé son calme. Non. Maintenant, on ne comprend pas toujours pourquoi il était endeuillé. On va écouter d'abord qu'est-ce qu'il lui dit à Rabbi Akiva, et là on va comprendre rétroactivement pourquoi il était endeuillé. Il lui dit Rabbi Akiva, Rabbi, Shema Baleyadcha Dvar Minut, peut-être une fois, tu as profité, tu as tiré un plaisir de quelque chose qui est lié avec la minute. Minute, c'est a priori les non-croyants, mais c'est probablement lié aussi avec un certain mouvement religieux qui a démarré à l'époque par un certain messie qui n'en aime pas mentionné son nom. Alors il dit peut-être une fois qu'il y a un rapport, un lien quelconque avec ces sectes-là, et tu as profité de quelque chose d'eux. Il lui dit, Rablaise, Iskartan et Davarra, tu m'as rappelé vraiment. Un jour j'étais quelque part, j'ai rencontré là-bas un monsieur qui s'appelle Yaakov Ishkfar Sakhnia. Yaakov Ishkfar Sakhnia, Kfar, c'est un village qui s'appelle Sakhnia. Et Yaakov Ishkfar Sakhnia était l'élève de ce monsieur-là. Celui-là. Donc, cet Yaakov m'a posé une question. Une question folle. J'ai écouté la question. Et je ne savais pas quoi répondre. La question, elle est très bizarre. C'est est-ce qu'on a le droit de prendre l'argent qui, normalement, on n'a pas le droit d'offrir au Bétamigdash. Vous savez qu'il y a certaines sources d'argent qui sont interdites à amener au Bétamigdash. Est-ce qu'on a le droit quand même de les amener au Bétamigdash pour faire de cet argent des toilettes au service des Kohen Gadol? Oui, mais un peu...
Oui.
Alors, on n'a pas le droit d'acheter avec un sacrifice. On n'a pas le droit d'acheter avec un outil au Bétamigdash. Mais peut-être quand même on a le droit de faire des salles de toilettes. Peut-être. Il a dit, les raves, Rabbi Eliezer, je ne sais pas. Dans la Torah, il y a marqué, l'autre vie, Betashem Elokecha, on n'a pas le droit de l'amener. Par exemple, on a vendu un chien. On n'a pas le droit de prendre l'argent de l'échange des chiens et d'offrir de ça quelque chose au Betamigdash. Mais peut-être pour les toilettes, oui. C'est jamais. Alors, Rabbi Eliezer a dit, vraiment, je ne sais pas. Il lui a dit, l'autre, moi je vais te dire qu'est-ce que j'ai appris de mon rave. Et lui a répété ce qu'il a dit son rave. D'accord? Et d'après l'enseignement de son rave, c'était permis. Et Rabbi Eliezer l'a écouté et il a dit il a raison. Cette fois-ci, il a raison. Quand il a raison, il a raison. Alors dit Rabbi Eliezer, maintenant j'ai compris. Pourquoi Rabbi Eliezer était endeuillé? Parce que Rabbi Eliezer, il s'est dit, si une chose pareille m'arrive, je suis prisonnier, je suis attrapé par les minutes, par les pouvoirs, et je suis amené devant un juge, un prêtre, qui me parle comme ça, et qui me dit, Dvarim Betelim, des paroles bêtes, comment tu les crois, toi, monsieur âgé, intelligent, pourquoi une chose pareille devait m'arriver? Rabbi Eliezer, il n'a pas du tout pensé sur le fait qu'en fin de compte, il était quoi? Sauvé. Il s'est demandé pourquoi il s'est trouvé dans cette situation, même pour 5 minutes, on va dire. N'importe. Mais si une chose pareille lui est arrivée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est ça qui lui intéressait. De découvrir où est la faute chez lui. La chose qui l'intéressait, ce n'était pas s'il est sauvé ou pas sauvé. Ça, c'est une question secondaire. C'est accessoire, ce n'est pas important. Chose qui est importante de savoir, si jamais il m'arrive quelque chose de pas bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez moi. Et donc, il faut le découvrir tout de suite pour faire attention, pour ne pas les refaire. C'est ça qui est important pour Abelazar. Et c'est pour ça qu'il était endeuillé. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver qu'est-ce qu'il a fait. Où il a fauté. Alors, le rave qu'il était là, il a dit qu'il est maintenant à Paris il y a quelques jours. Il reçoit un peu les gens. Et il vient quelqu'un et lui dit, regardez mon fils, qu'est-ce qu'il m'a fait comme des ennuis. Et malheureusement, il y a des gens qui souffrent beaucoup de leurs enfants. Quand ça arrive, une chose pareille, c'est horrible. Et le rabbi dit, l'autre il me dit, eh, pourquoi ça m'arrive ça? Alors, il commence à lui demander, il ne veut pas parler des mal de quelqu'un, il a dit avec beaucoup de gentillesse. Il a dit, nous, tu es chauveur Shabbat, pas encore. Tu manges kasher, pas encore. Tu sais pas, tu fais ça, pas encore. Alors il dit, il va se le laver. Lui, il cherche encore où est le problème. Rabbi Eliezer, il ne s'est pas intéressé du tout, seulement de quoi, de trouver, de creuser pour trouver, en vérité, Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il a écouté une question, il a écouté une réponse, la question était idiote, la réponse il était pas mal, et voilà. Mais il ne s'est pas prosterné devant un croix, vous comprenez bien. Il n'a rien fait de dramatique. Il a juste écouté des paroles qui viennent de l'école de l'autre. Nous. Mais il ne faut pas le faire. Quelqu'un, comme Rabbi Eliezer, il ne devait pas le faire. Très bien, on est d'accord, il ne devait pas le faire. Et alors, et c'est pour ça, mais Rabbi Eliezer, il est déjà endeuillé. Mais le type là, il ne va pas manger cachère. Il n'est pas chômé au Shabbat. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Et il lève les yeux vers là-haut et il dit, bon, non, je ne te comprends pas. Un type gentil comme moi, pourquoi il lui arrive ça? On se s'accuser à Kadosh Baruch Hu. C'est le contraire de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Ne'eman alai adayan. Et il a parlé de qui? De Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il a accepté d'avance. S'il y a un problème, la faute, il n'est pas chez Kadosh Baruch Hu. La faute, il est chez nous. Et bien, mais chacun, s'il se vérifie, nous, on n'est pas Rabbi Eliezer, alors on peut trouver facilement, hein. Si je devais vous faire la liste des Me'averot, je crois qu'on devait avoir un livre épais comme ça. Moi, j'ai aucun problème de trouver Me'averot. Oui, j'ai un problème de se débarrasser, mais de trouver d'Averot, c'est un problème pour nous. On n'a qu'à haine avec haine, alors, franchement. C'est pas ça qui manque. Après, on se demande pourquoi ça nous arrive. On se demande pas. Parce qu'il n'y a pas à se demander, on sait tout de suite. On n'a pas besoin d'avoir des élèves qui vont venir, qui vont nous aider à trouver. Ils sont là, hein, sur la table, il n'y a pas de problème. Mais les gens, des fois, ils sont aveugles, pas aveugles, bouchés. Ils ne font pas les liens. Mais qu'est-ce que je fais, dit le type. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Alors, je reviens à l'histoire de Ben Ishraï, que je suis en train de vous raconter, si vous avez oublié, le type qui vient voir les rages, et il dit, Rabbi, voilà qu'est-ce qui nous arrivait, mon ami et moi. Voilà mon ami, il a tombé chez un marin, il a mangé glace Beth Yosef. Et moi, j'ai tombé chez un goy, et j'ai mangé bassar de halav, nevelot, tréfot. Tous les interdits possibles, il m'a réuni dans la même assiette. Malheureusement, j'ai eu très faim, j'étais en état depuis quoi en effet, donc je me permets de manger. Mais pourquoi l'autre, il était épargné de ça, Rabbi, expliquez-moi. Le Rabbi lui a dit, dis-moi, est-ce que, par hasard, c'est arrivé une fois que tu as mangé quelque chose d'interdit volontairement. La personne elle est devenue rouge, il a dit, oui Rabbi, je ne vous cache pas, un jour j'étais en train de me promener dans la forêt, je me rencontrais avec un groupe d'égoïnes qui était en train de pique-niquer, et ils avaient avec eux des bonnes choses quoi. Et ils m'ont vu comme ça arriver, et ils m'ont dit, monsieur, vous voulez pas dîner avec nous? Vous savez, il y a des fois des gens gentils. Et moi, d'un côté, je voulais pas les revexer, parce qu'ils m'ont proposé avec tellement de gentillesse, et de l'autre côté, j'ai vu l'année de... sur l'étiquette des bouteilles de vin, j'ai vu bien que c'est une bonne année, quoi. Et les fromages étaient aussi bonnes. Donc je me dis quand même, c'est pas de la viande, on peut trouver peut-être, là les goyims d'aujourd'hui, ils ont plus l'habitude de verser des vins devant les idoles, vous savez, c'est plus la même chose. Mais Kitsour, il s'est mis et il a mangé des fromages, il a bu des vins, il n'a pas oublié de faire la bracha avant et après. Bon, ça c'est une discussion pour soi, si on mange quelque chose qui l'interdit, est-ce qu'il faut faire la bracha ou bien non. En tous les cas, il a reconnu qu'il ça lui est arrivé une fois. Il a dit, les raves, c'est très simple. Ton ami, a priori, il a fait toute sa vie attention de ne jamais toucher de la nourriture interdite volontairement. Donc quand il s'est trouvé dans une situation pareille, Kadosh Baruch Hu lui a aidé d'être épargné de ça. Et si toi, tu étais comme lui, tu aurais trouvé une deuxième marin. Il y a probablement, de même qu'il y a un, il y a deux. S'il y a deux, il y a trois. C'est pas ça qui manque à Kadosh Baruch Hu, la solution, comment faire. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, il voulait t'apprendre la leçon. Et la leçon, elle est, à Baletamé, mais c'est une biade. Celui qui commence à s'impérifier, on va lui aider à continuer. À Baletaer, celui qui veut faire quoi? De faire des biens? Potrimba. On va lui donner des ouvertures. On va lui donner des aides. Donc en vérité, ça dépend de nous. Et après, il y a les deux chiens qui arrivent. Et ça arrive tout seul. C'est ça qui dit les Pélé-Yoët ici. מגלגלים זכות על ידי זכאי. Des choses bien, des choses gentilles, arrivent toujours par l'intermédiaire des gens bien. Et des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles, des mauvaises actions, Akadosh Baruch Hu, il doit nous envoyer, Chas V'Shalom, quelque chose de pas bien, il va l'envoyer toujours par l'intermédiaire de quelqu'un qui est méchant. Pourquoi? Parce que l'autre, il est déjà méchant. Et parce qu'il est déjà méchant, Kadosh Baruch Hu va se servir de lui pour être le messager de Hachem par rapport à cette affaire-là. ואם יעמדו כל העולם בכף מאזניים להרע או להיטיב לו כחוט השערה, c'est une image on a vu aussi la semaine dernière. Même si le monde entier va se mettre sur la balance, sur un des plateaux de balance, pour lui faire des biens ou pour lui faire des mal. Le monde entier, 6 milliards et demi de personnes, c'est un plateau, d'accord? Et lui seul sur l'autre. Quand même, Gzeirat HaMakom bekaf shniya. En vérité, c'est pas moi seul contre le monde entier. C'est Gzeirat HaMakom bekaf shniya. C'est-à-dire, c'est la Gzeira de qui? C'est la décision de qui? C'est la décision d'Akadosh Baruch Hu sur le deuxième plateau. Donc, Machriyai et Kula, ça va trancher contre 6 millions et demi de personnes, 6 milliards et demi de personnes. Sans problème. J'ai lu une fois une histoire, c'est presque interdit de le dire, mais je vais le dire quand même, parce que l'excuse, il est que c'était un rêve de quelqu'un, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est permis de le raconter. Mais si c'est pas un rêve, alors imaginez-vous qu'on est en train de rêver, d'accord? L'histoire raconte comment est-ce qu'il y a une personne qui dort, Il commence comme ça dans son rêve de refaire sa vie depuis qu'il était petit. Une sorte de rêve historique. Alors l'image qu'il voit, c'est que lui marche, il avance comme ça dans l'étang d'une année à l'autre. Il fait au jardin d'enfants, après il passe au CP, il continue, sixième, terminale. Et il voit comme à côté de la plage, vous voyez quelqu'un qui marche, il reste des traces de ses pas. Mais il voit qu'il y a des traces qui sont à lui et des autres, juste à côté. Et il ne comprend pas qui c'est la deuxième personne qui est tout le temps à côté de lui. Donc il ne comprend pas, mais après, il continue à marcher. Il voit que de temps en temps, il y a seulement ces traces propres. Il y a seulement des traces, et les deux à côté, ils ne sont pas là. Alors il commence à regarder dans le détail, tout ça c'est dans le rêve, hein. Il commence à regarder dans le détail, et il voit que chaque fois qu'on tient un moment difficile, il y a seulement deux. Il n'y a pas quatre. Donc il y a seulement une seule personne ici. Et comme ce sont des moments relativement bons, là, il y a quatre. Il ne comprend rien. Et dans un coup, il entend dans son rêve la voix d'Hachem. Et Hachem lui dit, nous, tu vois? Il a dit, oui, je vois, mais je ne comprends rien. Il lui dit, Hachem, pourquoi tu ne comprends pas? Tu vois, les dés à côté, c'est moi. Je suis à côté de toi tout le temps. Et jamais seul. Bon, ça c'est qui dans le rêve, parce que vous comprenez bien qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas des traces dans ça. Mais l'image, elle est bonne quand même. Alors, dit l'autre, mais permettez-moi Akadosh Baruch Hu, si déjà, explique-moi pourquoi, à chaque fois quand il y a des moments difficiles, tu me laisses tomber. Il a dit Akadosh Baruch Hu, c'est juste le contraire. Quand il y a un moment difficile, je te soulève sur mes mains. C'est pour ça que tu ne vois pas tes traces à toi. Comprenez? L'image, elle est très bonne. L'image, elle est très très bonne. Si c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Si c'est comme ça que ça fonctionne, Bidiouk, je ne sais pas. Mais l'image, elle est bonne, et c'est vrai dans le principe. C'est-à-dire, le principe, il est, qui plus que le moment, il est difficile, en vérité, plus Akadosh Baruch Hu, il est là. En vérité, c'est un texte méphorique dans la Gemara, parce que la Gemara dit, et Rashi, il amène ça sur le Chumash, La Makeva Ishtahu Yosef, quand Yaakov était malade, Yosef il est venu, il lui a parlé, après il s'est prosterné. C'est quoi ça, que le fils il se prosterne devant son père? Il ne faut pas exagérer quand même, il faut respecter ses parents, mais il ne faut pas se prosterner devant eux. Chachamim nous disent, Vaishtahu al Rosh Amita, Shrina le malam et Mashotav shel Chole. La Shrina, elle se trouve juste au-dessus de la tête du malade. Pourquoi? Parce qu'il est malade. C'est-à-dire, plus que la personne est dans la difficulté, plus Akadosh Baruch Hu est proche. Et son vérité marqué dans Tehillim. Parce que David Amalek, il a dit, Gam ki eler begei salmavet, lo irara. Même quand je me trouve begei salmavet, dans un vallée des morts, il y a tselmavet, c'est-à-dire je vois déjà l'ombre de la mort. Je vois déjà l'ombre de Malacham Mavet. Il est juste au-dessus. Lo irara. Je ne crains pas de malheur quelconque. La main qui atta, il m'a dit, ce que tu es avec moi, atta. À qui on dit atta? À quelqu'un qui est vraiment en face. Pas proche, en face. Atta, toi. Donc il tutoie à Kadosh Baruch Hu pour dire que vraiment à ce moment-là, plus qu'il est difficile, plus il peut tutoyer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur du tout. Parce qu'une fois qu'il y a 14 Baruch Hu est dans les coups, on n'a rien à craindre. Et même si Chas V'Shalom on meurt, ok on meurt. Mais chez nous, il n'y a pas des accidents. Chez nous, ce n'est pas des hasards. Chez nous, si quelqu'un, son moment est arrivé, à 14 Baruch Hu il était à côté, et c'est lui qui a décidé que son moment est arrivé, alors son moment est arrivé. Je ne le souhaite à personne, ni à moi-même, ni à personne, mais ça peut arriver. C'est un Kadosh Baruch Hu qui est al kaf hamoznaï. C'est lui qui soulève la personne, il lui donne plus de poids pour arriver à trancher contre le monde entier. Et une fois que c'est comme ça, et une fois que c'est bien clair dans la tête, qu'en vérité tout vient de la part d'Akadosh Baruch Hu, et tous les hommes qui nous font des mal, ou tous les hommes qui nous font des bien, ils sont seulement les envoyés, les messagers d'Akadosh Baruch Hu. Et personne n'y fait de choses de lui-même. Alors, Velachem, Loïsa Panim, Velo Yachnif, Velo Yagur Mipneish. Donc à partir de ce moment-là, quand je sais cela, Loïsa Panim, ça veut dire qu'il ne faut pas essayer maintenant d'être très gentil avec quelqu'un parce qu'on pense que peut-être un jour on arrivera à profiter de lui. Veloyachnif, et c'est pas la peine de flatter qui qu'il soit. S'il faut flatter quelqu'un, il faut flatter Kadosh Baruch Hu déjà. On ne peut pas lui flatter, vous savez très bien. Mais on peut lui rendre content que nous. Ça oui, ça on peut faire. Mais de flatter un homme, ça n'a pas de sens. Veloyagur mipneish, et c'est plus la peine d'avoir peur de qui qu'il soit. Ça veut dire pas maintenant que, bon, on doit sortir dans la rue et commencer à lancer des cailloux sur tout le monde. C'est pas ça qui veut dire qu'il faut se disputer avec n'importe qui. Mais juste dire qu'une fois qu'on a compris que les choses sont menées et gérées par Akadosh Baruch Hu, alors en vérité, à la place de s'occuper de ces petits fonctionnaires qui se promènent ici autour de nous, il vaut mieux d'améliorer nos relations avec les patrons. Et si on est bien avec les patrons, tous les petits fonctionnaires peuvent rien faire. Et si on est mal avec les patrons, n'importe qui ne pourra pas nous aider. On sera licencié. Veloyagur mipneish, veloyiga leashir shelo bemishpat. Et ce n'est pas la peine de se fatiguer pour s'enrichir, pas dans le sens juste. C'est-à-dire les gens qui essayent de faire toutes sortes de magouilles et de mensonges et des semi-vols ou des vols vrais dans leurs affaires. Avec les terroutes, avec les prétextes miskines, c'est comme ça dans la commerce. Ça ne sert à rien. Veloïga les assure sur le même mishpat. Et il ne va plus se fatiguer cet homme-là pour s'enrichir sur le même mishpat, ça veut dire pas dans le sens juste et vrai. Qui a mishpat le Elohim, parce que de toute façon celui qui le décide, c'est Akadosh Baruch Hu. Venoten le Ish Kidracha, et c'est lui qui donne à chacun de nous Kidrahav, comme toi tu te comportes, comme ça Kadosh Baruch Hu, il te donne. L'anato ou le tovato. Et il fait ça pour le bien de la personne et pour que la personne y va profiter. Si jamais la personne il mérite. Mais si la personne il mérite une bénédiction quelconque, Akadosh Baruch Hu, il va le donner, pas pour lui faire des mal, c'est surtout pour lui réveiller, pour qu'il va se remettre en question, pour qu'il va réfléchir, comme il a fait Rabbi Eliezer quand il a senti qu'il a besoin de décoder cet mystère, pourquoi est-ce qu'il était mis en prison. Donc il a pris la chose dans son bon sens, dans le sens qu'il faut le prendre. J'ai vu dans un sefer d'un tzaddik qui s'appelle Yosher Divrei Emet. Je ne crois pas que vous l'avez lu une fois, c'est un livre assez compliqué. Un des élèves de Baal Shem Tov s'appelait Rav Meshulem Wolf d'Isbari. Lui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Yosher Divrei Emet. Alors il parle là-bas de quelque chose qui n'est pas du tout le sujet, mais l'image qu'il donne. Je crois qu'il est vrai aussi par rapport à ce point qu'il a, il a développé là. Il parle de l'orgueil. Et du fait que chacun de nous, il se sent très intelligent, très beau, très fort, qui se permet facilement d'écraser les autres, de faire n'importe quoi à n'importe qui. Parce que lui, il est laid ou là. Alors, il donne là-bas une image, il dit, en vérité, la personne qui fait ça, qui engueule les autres, qui parle méchamment avec son entourage, ça peut être n'importe qui, ça peut être sa femme, ça peut être son mari, ça peut être ses enfants, les amis, les gens qui travaillent avec lui dans le même bureau. Lui, il ne sent même pas qu'il y a un problème. Pourquoi ça? Alors, il donne une image, il dit, quelqu'un qui roule, on lui parle d'un carrosse de chariot comme à l'époque, mais on va dire qu'il roule en train. Oui. Alors, si c'est une fois en Suisse, vous savez, il y a le train qui monte comme ça le montagne. Imaginez-vous qu'il est type, il est assis dans ce train, et ils sont dehors. Donc il a pris les trains, les machals, on va dire à Genève. D'accord. Donc on commence à rouler, c'est encore plat. Après, ils sont dormis. Et entre-temps, pendant qu'il dort, le train a monté. Maintenant, il se trouve juste au-dessus de la montagne. Et là, il y a une gare. Et au-dessus de la montagne, c'est plat. Le type, il va se réveiller, parce que le train s'est arrêté. Il ouvre ses yeux. On est toujours à côté de Genève. Il ne se rend même pas compte qu'il est là-haut. D'accord? Parce qu'il n'a pas suivi la montée. Quand est-ce qu'il va se rendre compte qu'il est là-haut? Quand le train va reprendre la route, elle va commencer à descendre. Elle va se dire, waouh, où j'y étais. C'est là qu'il va comprendre où il était. Alors le Rav, il dit, le Yosher Divrei Emet, il dit, on est tellement endormi, on ne fait pas tellement attention sur notre comportement, qu'on ne se rend même pas compte jusqu'à tel point on est là-haut. Ça veut dire jusqu'à tel point on se prend compte. Vous voyez? Quand est-ce qu'on va sentir qu'il y a un problème? Quand notre train commence à descendre. C'est-à-dire, dans un coup, les types, ils découvrent, comme ça arrive à chacun de nous, de temps en temps, on reçoit comme ça des bons coups de là-haut, pour nous montrer qu'on n'est pas si intelligent que ça, qu'on n'est pas si fort que ça. Donc, on a fait un truc, on s'écrit vraiment très fort, et après, ça se découvre rétroactivement comme une bêtise grave. Là, on commence à descendre, et très vite en plus. C'est là qu'on se rend compte qu'en vérité, où qui on était avant, c'était trop haut. Et il vaut mieux qu'on va se remettre un peu à notre place. Ça, c'est l'image qu'il lui donne par rapport aux questions de l'orgueil. Mais en vérité, cette image, elle est vraie presque pour tout. C'est un passe-partout. Parce que la chose sur laquelle il parle ici, les Pelioët, c'est tellement vrai. Quel effort, quel investissement ils font les gens pour plaire à celui qui pense qu'il dépend de lui. Même des fois, je regarde comme ça les gens des côtés, qu'est-ce qu'ils font pas pour que leur patron soit content d'eux. Et bien, sauf quand ils décident de les licencier, ils veulent les licencier sans pitié. Soyez sûr. Est-ce que ce n'était pas beaucoup mieux d'investir tout cet effort-là pour plaire au vrai patron? Bien sûr que oui. Mais on est tellement pris dans le système, on est tellement endormi, et on voit que tout le monde autour de nous, ils font ça. Alors on s'est dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Malasout. Et même ces gens qui donnent cette réponse bête, la commerce, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est parce qu'ils sont endormis par le système, vous comprenez? Ils ne sentent même pas où est-ce qu'ils se trouvent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils se trouvent dans l'abîme. C'est l'image juste des contraires. La personne, il pense qu'il est en train de s'occuper de quoi? De ce parnassa. En vérité, il est en train de voler. La personne, il pense qu'il fait une grande mitzvah parce qu'il nourrit sa famille, paye les conjuifs de ses enfants. Mais en vérité, il est en train de mentir. Il est en train de transgresser, je ne sais pas, peut-être des dizaines des interdits. Et là-bas, le problème, elle est qu'il est tellement là-dedans, il est tellement endormi, il est tellement habitué, qu'il ne se remet pas en question. Et c'est pour ça qu'il nous dit les pèlerins, à quoi ça sert de flatter à quelqu'un? À quoi ça sert de plaire à celui qui pense qu'il faut lui plaire? À quoi ça sert d'essayer de se fatiguer, de faire tout pour gagner de l'argent? Si c'est pas ton argent, si tu ne le mérites pas, tu ne le mérites pas. Le vrai patron, il va venir après, il va te les prendre. Quand des fois, je vois quelqu'un qui a gagné de l'argent, et tout de suite après, il commence à lui arriver toutes sortes de choses bizarres. Là, il est attrapé par la police, en train de parler au portable, et ils vont lui aligner une somme énorme. Là, il va tomber malade, il commencera à aller voir des médecins qui coûtent très très cher. Là, il y aura ça, et là, il y aura ça. Il ne manque pas des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il peut inventer facilement pour lui enlever tout l'argent qu'il a gagné. Et le type, à la place de se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que l'argent m'écoule entre les doigts sans arrêt? Il s'énerve encore. Il dit que ça ne va pas. Bien sûr que ça ne va pas, mais où ça ne va pas? Ce n'est pas les policiers qui ne va pas. On s'énerve si les policiers ont dit les méchants comme c'est pas possible. Mais le problème, ce n'est pas les policiers du tout. Le problème, c'est que cet argent, il n'est pas à toi, à point. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il t'enlève l'argent que tu as gagné, que tu ne le mérites pas. Ce n'est pas compliqué. C'est hyper simple. Mais nous, on ne pense pas à ça. On pense quoi? Peut-être on va faire un grand sourire au policier, peut-être il va accepter quand même de baisser un peu, de changer le tarif. Il ne va pas nous donner la choix numéro 1, il va donner la choix numéro 2, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Qui a mishpat le Elohimu, c'est à Kadosh Baruch Hu qui le décide. Ce n'est pas lui. En eilek sot darchei midat habitachot. Voici, dit le Pélérès, je vous ai donné juste les bouts de Midat Habitachot. Ukvarba Baruka de Sifrei HaKodesh. Et celui qui cherche à avoir plus de détails, il peut regarder dans Sifrei HaKodesh, qui gon Sefer Chovot HaLevavot, le Sefer HaKadosh Reishit Chochma VaVizreho et d'autres livres comme ceci. Ashrei Adam Shoked Alev. Erei est l'homme qui va se mettre à travailler sur ces livres-là. Vani, Bati Acharehem, moi en vérité je suis derrière eux. La seule chose que je fais c'est me derek tsara. Ça veut dire j'ai réuni les principes. Le'ahir et Atzmi, je vais me réveiller. Ved Bnei Gili, et des gens à mon âge. Quand il dit à mon âge, il ne veut pas parler de l'âge calendrique, il parle de mon niveau quoi. Vashem Elohim Ya'azorli, Betoch Amo Israël. Et je demande qui Dieu va m'aider parmi les autres béné Israël. Et l'essentiel c'est Veye Pinu Veli Benu Shavim Hashem Barach. Parce qu'en vérité, dans ce chapitre, il a parlé des choses très élevées. De vivre dans cette émotion, dans ce sentiment. Et vraiment tout dépend d'Hachem, mais vraiment tout. Tout c'est de A à Z, TTC. Ça c'est relativement facile à dire, mais très difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il conclut ici avec une prière qu'il n'a pas l'habitude de faire à la fin des autres chapitres. Et il dit que Dieu va m'aider V'yé pinu relibeinu shaviv la shemil barach. Qui notre bouche et notre cœur sont en égalité vers la Kadosh Baruch Hu. Qui ne va pas dire des choses qu'on ne croit pas, qu'on ne sent pas. Amen, Kenei Ratsa. Alors, je souhaite à nous tous bien d'arriver à un niveau de bitachon bien comme il faut. Et de sentir qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il est toujours à côté de nous, et surtout quand ce Shalom est un moment difficile, il est encore plus à côté de nous. Il va nous sauver de toute manière.